Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux du jeudi. Et qui dit jeudi, je vais faire des vers sans en avoir l'air, dit Jamin Chtouki.
Jeudi Jamin. Bonjour, bonjour Arlette,
bonjour Jamin.
Sébastien.
Est-ce que, j'allais dire est-ce que tu vas bien, non, erreur, oublie ce que je t'ai dit.
Je vais bien, je suis juste en colère, c'est pas la même chose, je vais être là, de bonne humeur, faire rire les gens.
Alors, ceux qui veulent en savoir plus sur les raisons de la colère, appelez-nous en studio 514-282-3472 et jamais n'aura pas le choix de nous dire pourquoi il ne va pas bien. Non, en fait, pourquoi il va bien, mais il est en colère.
Si vous voulez le cul de gueule, le coup de gueule de Jamin.
Non. On en reste au courrier des auditeurs, s'il vous plaît. Il arrivera plus tard. En deuxième partie, on sera avec Carmen Jolin pour la saison du Théâtre Prospero 2021-2022. Donc, grand plaisir. Et puis, Carmen, c'est sa dernière saison, puisqu'après, elle laisse la place à un nouveau directeur. Donc, on va aussi en parler avec elle. On commence avec Gauvin Serre, qui nous chante. Et ça, c'est un clin d'œil que Jean-Sébastien te fait à toi, Jamin. La chanson s'appelle « En quarantaine ».
Partout les chaises sont empilées, partout les rideaux sont tirés, les salles de classe ressemblent toutes à ce qu'elles seront au mois d'août. Les paquets de pâtes italiennes ont déserté tous les rayons, comme s'il fallait qu'on se souvienne que la peur réveille les couillons. Excepté la bêtise humaine, nous voilà tous en quarantaine, en quarantaine. Certains allument la chaîne Ifi, savourent un album en entier. Certaines ressortent le manuscrit qu'elles n'ont jamais pu achever. Les confinés relisent Prévert, les confinés se serrent la main. On a toujours besoin d'une guerre pour démasquer les êtres humains. Comme le cargo du capitaine, nous voilà tous en quarantaine, en quarantaine, en quarantaine. Les impatients trinquent à distance, par vidéo interposée. Les solitaires matent à outrance n'importe quel dope télévisé. S'il y a des concerts aux fenêtres et des coups de fil pour nos grands-mères, c'est qu'au bord du gouffre peuvent naître les plus beaux élans solidaires. Moi qui viens de passer la trentaine, je fais un saut en quarantaine. Les marchés s'effondrent un peu plus et les costards retroussent les manches. Il fallait au moins ce virus pour qu'il se soucie des blouses blanches. Comme la bataille est immédiate, et malgré le manque de moyens, c'est le stéthoscope en cravate que les docteurs sauvent nos anciens. Il serait temps qu'on s'en souvienne, quand prendra fin la quarantaine, la quarantaine, la quarantaine.
Alors finalement, il faut que je, quand même que je vous le dise, parce qu'on partage tout quand même. Hein. Jean-Sébastien tout, se posait tout, la question de savoir s'il tout. Allait ouvrir les micros ou pas, mais finalement, sa conscience professionnelle l'a emporté.
Ouais. Mais je me suis dit, si j'ouvre pas le micro de l'invité, probablement que moi, il va falloir que je m'ouvre la trappe. Donc, j'ai pris la solution la plus facile.
Alors, on va parler avec Jamin Chouki, qui c'est a reçu un courrier d'un auditeur ou d'une auditrice, je ne sais pas, sur le confinement.
C'est cela même. Donc déjà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, même si je suis en colère, avec vous sous cette chaleur torride.
Oh là là, oui.
Hein, t'es en colère avec nous?
Non.
Non, 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 n'exagère pas quand même.
Non. Et sous cette chaleur torride, dirais-je, tellement torride que Arlette est en bikini face à moi et Jean-Sébastien est en short. Oui, c'est ça de faire de la radio, hein, c'est qu'on ne voit pas.
Vous êtes chanceux.
Et voilà.
Ah bah merci Jean-Sébastien. Allez, il en remet une couche.
Peu de courriers cette semaine, sans doute dû au pass sanitaire. Hein. Oui, car maintenant, il faut y mettre son code QR pour pouvoir être envoyé. Là, Google le scanne, vérifie avec ses informations collectées sur vous d'Internet que tout est OK, pour pouvoir l'envoyer au destinataire, qui lui aussi doit être vérifié, etc., etc., etc. Si on continue comme ça, on n'est pas loin de la puce électronique dans le bras. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà. Aujourd'hui, une lettre de Madame Laure Réal, qui habite à Pasque-Gévaubien. Oui, j'avais pas eu de première réaction, j'avais eu un petit doute. Je me suis dit, voilà, j'avais plein de... Qui m'écrit ceci?
J'attendais le nom de la ville, mais j'ai pas pu tenir jusqu'au bout.
Bonjour, Chamin. Je trouve vos chroniques toujours aussi divertissantes, drôles et intelligentes. Ne riez pas, si, si, c'est possible, Arlette. J'adore votre talent de traiter de divers sujets. Et donc, je voudrais avoir votre avis sur un sujet difficile, le confinement. Comment l'avez-vous vécu? Ses conséquences sur les gens d'après vous? Comment cela s'est-il passé pour vous? Avez-vous des anecdotes de cette expérience? Merci à l'avance pour vos conneries.
Elle a dit anecdote, hein?
Oui.
Donc, c'est quelque chose de drôle.
Normalement. Mais c'est assez drôle à mon sens. Après, ça fera peut-être pas rire tout le monde, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Hein. Donc oui, cette superbe période. Hein. Bon, déjà, c'était long. Alors, pour passer le temps, j'avais acheté 300 paquets de bacon. Oui, j'avais essayé de remonter le cochon. Bon, une chance, car aujourd'hui, avec la grève chez Olimel qui dure depuis des mois, je pourrais plus le faire, ça. Bah, en fait, il faut avouer que le coronavirus, c'est bien la première chose made in China qui fonctionne aussi longtemps. En plus, depuis le début, depuis que tout le monde se lave les mains, bah, dans les bars, les cacahuètes ont moins de goût. Question. Vous savez pourquoi dans les épiceries, on est en rupture de papier de toilette?
Ah non, plus maintenant.
Si. C'est parce qu'à chaque fois qu'une personne tousse, des centaines chient dans leurs pantalons. D'ailleurs, à propos de tousser, je suis un ancien fumeur. Hein. Et tout ça, c'est parce que j'avais fait un pari avec mon meilleur ami en secondaire 2. Hein. Si je fumais un paquet complet en une heure, il me passait une cassette de film porno de ses parents. Alors moi, bien sûr, j'étais un jeune adolescent, hein. Je l'ai fait, et là, il m'a donné la cassette. Mais ça m'a traumatisé. Quand j'ai vu que c'était une cassette de film porno de ses parents, son père qui tapait les fesses de sa mère avec une spatule, à cette heure, j'ai pu remanger de grilled cheese chez lui. Mais bon, il n'y a pas de danger d'avoir le cancer. Hein. Ah, ça je vous le dis. Parce que vous avez lu les textes qu'ils mettent sur les paquets avec les photos? Maureen, victime de 4 affaissements du poumon. Brian a subi une trachéotomie. Karen a fumé pendant sa grossesse. On est en sécurité, c'est juste des anglophones qui tombent malades. De toute façon, c'est le confinement qui a failli me tuer. Ah, j'étais de mauvaise humeur à la maison. Ouais, parce que ma blonde s'est mise à chanter dans la maison tout le temps. J'étais obligé de m'asseoir dehors, sinon les voisins croyaient que je la frappais. En plus, c'était pas la joie au lit. Hein. Là, c'est rendu qu'on dormait plus ensemble. Faut savoir, on avait des draps en satin. Et à ma fête, elle m'a acheté un pyjama de satin. Fait que je suis plus capable de monter dans le lit. Ah oui, si je donne un petit coup de swing avec le bassin, je fais de l'aquaplanage dans le lit. Et là, il faut que ma blonde me rattrape quand je passe, sinon je me retrouve dans le mur. Ouais, parce que elle glisse pas. Ouais, parce qu'elle dort toute nue. Et avec la cellulite, ça break.
Oh, quelle horreur, je vais lui dire.
En tout cas, le coronavirus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Non, sincèrement, parce que ma femme ne veut plus prendre l'avion ou prendre des vacances parce qu'elle a peur d'être infectée. Elle ne va plus au centre d'achat parce qu'elle a peur d'être infectée. Elle ne magasine plus sur Internet car elle sait que tout vient de Chine. C'est pas un virus, c'est un plan d'épargne. Mais il y en a pour qui ça va pas. Hein. Exemple, il y a G du Temple qui ne comprend pas Covid-19. Pourquoi ? Bah, il n'a pas suivi les 18 premiers.
J'aime bien ce garçon, moi.
En tout cas, oui, mais il présente quand même Odé.
Oui, c'est vrai, mais quand je l'ai connu, il était simplement humoriste.
Oui, mais je pense qu'il a baissé de niveau depuis. Hein. Donc, en tout cas, vous avez de la chance de me voir aujourd'hui. Oui, parce que pendant le confinement, j'ai manqué mon suicide. Eh ouais, je me suis assis un matin dans mon char, dans le garage. J'ai parti le moteur. 3 heures plus tard, j'étais toujours vivant. Ah, vous savez ce que c'est, hein? Un char électrique. Mais faut voir le bon côté des choses. Parce que là, on est à la radio. Et à la radio, ce qui est bien, c'est qu'on a donc pas une job qui nous oblige à sourire tout le temps. Hein. Parce que imagine le pauvre petit vieux qui dit tout le temps, là, « Bonjour, bienvenue chez Walmart. » Tu dois être écœuré de sourire à la fin de la semaine. Ça doit être pour ça que c'est jamais le même. Hein. Sont à bout. En fait, non. Ça, c'est parce qu'il meurt. Oui, oh. Surtout l'hiver, devant les portes qui ouvrent à tout bout de champ, là. Moi, je dis, c'est de l'euthanasie camouflée. Puis habillé en soude bleue, là, c'est pas mourir dans la dignité. Hein. Ils sont tellement vieux que quand, moi, je vais au Walmart, je dis, et quand je viens là et qu'ils me disent « Bonjour, bienvenue chez Walmart », je réponds toujours « Mes sympathies ». Bah, au moins, c'est bien, ils ont de la visite avant de mourir. C'est comme ma vieille tante Carmen. Pas celle qui fait de l'opéra, celle qui fait des pâtisseries. Ah, c'est bien, vous l'avez poignée, j'avais peur. Avant de mourir, elle était tellement toute seule qu'elle a appelé au 411 pour jaser à quelqu'un. Et quand ils ont demandé pour quel nom, elle a dit « Dieu ». Et elle s'est retrouvée à parler avec un haïtien qui s'appelait Dieu Donné. Elle est morte au téléphone et puis ça lui a pas coûté une pièce. Mais c'est pas drôle la solitude des personnes âgées. Hein. Moi, ma grand-mère, elle a 80...
La solitude en général.
Oui, mais surtout des personnes âgées. Parce que ma grand-mère, elle a 98 ans. Elle est rendue haute de même, c'est-à-dire pas très grande. Un vrai paquet d'os. Ah oui, elle est mince. Il y a plus de viande sur un repas cuisse chez Saint-Hubert. En plus, elle est rendue sourde comme un pot. Sur sa photo de carte d'assurance maladie, tu vois clairement qu'elle est en train de dire... À un moment donné, on pensait même qu'elle était morte. On avait commencé à organiser ses funérailles. Mais finalement, on l'a retrouvée. Fouille-moi comment elle s'est retrouvée là. Mais elle était dans le divan-lit en dessous du drap contour. Mets ça dans ta pipe, Luc Langevin. Mais je l'ai toujours trouvée fine, cette madame-là. Hein. Je me rappelle quand on jouait au hockey sur le lac, puis qu'elle nous aidait à attacher mon grand-père devant le net pour faire le goaler. Elle voulait même pas qu'on lui mette des pads. Elle disait que ça servait à rien, il sentait plus ses jambes. Ah, c'était les bonnes années, ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va la voir. Hein, on a trop peur qu'elle nous meure dans la face. Elle est rendue si fragile. Le docteur a dit qu'elle a même plus le droit de péter, car ça pourrait lui fracturer le bassin, puis la tuer. C'est peut-être que de là vient l'expression « autant on emporte le vent ». En tout cas, moi je dis, c'est le moment d'acheter en viager. Oui, en viager. Alors, oui. Toi Arlette, tu sais ce que c'est, mais les Québécois, vous ne savez pas ce que c'est, donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quand tu veux acheter une maison... un logement ou un condo. Hein. Tu donnes une petite somme d'argent à la personne à la signature du contrat, la personne reste habitée dans le logement, mais tu lui payes un petit montant à chaque mois, genre un 500$. Donc tu vois, t'as donné un 100 000 à la signature, alors que le bien en vaut peut-être 1 million, et puis tu dis, je te donne un petit 500 tous les mois, tant que t'es en vie. Et quand la personne meurt, ça devient immédiatement à toi. Ça évite de payer des taux d'intérêt de fou à des banques de voleurs, ouais. Ou oui, d'avoir des hypothèques de marche, de marde sur le dos. Hein. Et avec le virus, c'est comme avec Vidéotron. une bise, une toux, une poignée de main et te voilà propriétaire illico. Ça réglerait le problème de crise de logement hein, avec un 5,5 à 500 piastres. Voilà, qu'on se le dise.
J'ai honte. Musique.
Après une histoire de fesses, je suis au bout du rouleau. Dans une salle de bain couleur stainless, j'ai pris le dernier des carreaux. Nous avions l'habitude, dans une grande armoire, de garder quelques rouleaux de spider. Une règle d'or assez rudimentaire visait à garantir un éventail. Mais je fus bien surpris, j'ai froncé les sourcils quand j'ai vu le fond de l'étagère. Oh, une négligence d'un colocataire me rend impuissant, les culottes à terre. Car après une histoire de fesses, je suis au bout du rouleau. Dans une salle de bain couleur stainless, j'ai pris le dernier des carreaux. J'appelle la light, oh, je crie au salon, mais il n'y a pas personne à la maison. L'air intelligent, c'est en titubant que je devrais trouver ma solution. Kleenex dans la chambre à Caroline. Jeff a pris le dernier Scott Towel dans la cuisine. Je me résigne, j'hypothèque mes jogging, ainsi j'irai cogner chez la voisine. Car après une histoire de fesses, je suis au bout du rouleau. Dans une salle de bain couleur stainless, j'ai pris le dernier des carreaux. Oh, j'ai pris le dernier des carreaux.
Alors, on vient d'entendre Bleu Jeans Bleu qui nous chantait Cachemire. Est-ce que Jean-Sébastien, est-ce qu'on parle encore avec Jamin Chtouki ou...
Cachemire from Talibans. Pardon, oui, vous pouvez toujours me parler. Hein. Je ne suis pas contagieux, tout va bien.
Mais moi, il y a une vitre entre toi et moi, donc...
Moi aussi, il y a une vitre entre lui et moi.
Je t'ai entendu.
La mienne est plus grande.
Tu parles de la vitre.
Ah ben ça y est, on va assister à une bagarre de garçons.
Non, pas du tout. Non. Non, mais je t'ai entendu rigoler, Jean-Sébastien. Hein, hein,
oui.
Bah
oui.
Et puis quand vous n'entendiez pas, c'est parce qu'il était tombé de sa chaise et qu'il était loin du micro. Bah, on peut en rire maintenant, c'est passé ça, le confinement, on va plus en avoir.
Oui, il faisait comme moi, il avait honte d'en rire trop fort, alors il était à quatre pattes par terre pour pouvoir en rire.
Ça s'appelle avoir, comme on le disait hors antenne, c'est de l'humour borderline. C'est juste à la limite et je trouve que ça manque en général en Amérique du Nord. On en a beaucoup en Europe, on a des humoristes, Tim Seat, il y avait Dupontel à l'époque. Ce sont des humoristes très caustiques, très ironiques, qui vont même plus loin que ce que j'ai fait là. Mais comme je dis toujours, on peut rire de tout avec tout le monde tant que c'est fait avec talent et que c'est pas gratuit. C'est juste méchant pour être méchant.
Oui,
donc s'il y a un humoriste québécois qui s'est fait condamner pour ça parce que c'est un peu sa spécialité, mais c'est parce qu'il a nommé une personne. Et donc quand tu as nommé une personne, ça devient méchant. S'il était resté général en parlant des handicapés en général et que parfois ils sont pas très beaux, etc., ce serait passé comme une lettre à la poste. Mais quand tu nommes une personne ou quand tu fais un défaut sur une personne principale, là, tu peux pas. Là, je me moque en général.
Et ça devient une attaque personnelle dans ce cas-là.
Voilà, c'est pour ça qu'il a été condamné.
Et donc, on n'est plus justement dans le spectre de l'humour.
Voilà.
En fait, il y a l'excuse de l'humour, mais ce n'est plus simplement qu'un gag. Et puis là, je ne suis pas un spécialiste, donc je vais arrêter là.
Non, mais c'est ça. C'est qu'il faut se mettre des limites quand même. Tu ne peux pas être sans limites parce que sinon, c'est là où tu amènes plein de débordements ou autre. Mais il faut pouvoir rire de sujets tabous. Le sexe, voilà, le confinement, le virus, le machin, la mort, l'argent.
Moi, je voudrais savoir une chose sur
je
toi.
T'écoute.
Parce que, en fait, je n'ai jamais posé la question en dehors de la radio. Est-ce que tout ce qui fait j'allais dire ton tableau de chasse, tout ce que tu sais faire quand tu montes sur une
tableau
scène.
Tableau de chasse de
tout,
femme de...
Non, non, pas du tout. Je parle de pièces de théâtre. Ah. Je parle d'humour, je parle de rire, je parle de choses, d'humour caustique ou autre.
Oui, est-ce que tu as déjà joué quand des... Quand j'étais jeune, j'étais un serial niqueur, hein, faut le savoir. pas depuis que je suis avec ma blonde, mais c'est pas ce tableau de chasse-là que tu veux savoir.
Non, c'est pas celui-là.
Au niveau artistique.
Artistique, est-ce que tu as déjà joué des pièces genre classiques ou autres ou modernes, mais plus sérieuses, sans une pointe d'humour?
Alors, sans une pointe d'humour, j'ai essayé, je n'y suis pas arrivé.
D'accord.
D'ailleurs, quand je répétais, il y avait le metteur en scène qui a dit « Monsieur Stucky, arrêtez, c'est pas drôle !» Parce que moi, je voyais toujours le côté comique de la chose et j'ai rajouté une petite truc. « Ouais, mais ça peut être le fun de... Non, nous sommes dans une dramaturgie de... !» Oh, c'est chiant, la dramaturgie, ça. Puis,
Donc, c'est pas ton truc.
Ça, c'est pas... Non, c'est pas mon truc. Je suis un con de naissance, c'est dans mes gènes. Et voilà, dès qu'il y a un truc, il faut que je parte dans la bêtise. J'arrive pas à rester sérieux.
Mais t'as quand même étudié ce que t'as étudié, t'es quand même aussi avec des certains classiques.
Tout à fait. J'ai joué des classiques. J'ai fait du Feydeau, j'ai fait du Molière, pas beaucoup, mais j'en ai fait. C'est pas forcément de l'humour en tant que tel, mais qui reste de grands classiques.
Non, mais Feydeau, quand même, ça tire au ridicule, donc on peut l'accentuer, ça se rapproche quand même. Molière c'est quand
avec
même
les
drôle.
Alexandrins,
moi, je te parle des choses plus.
Non. On a essayé et ça me fait pas vibrer, ça m'ennuie. Parce que je me suis rendu compte que quand tu fais quelque chose de dramatique, c'est centré sur toi. Parce que tu dois aller chercher en toi des choses qui vont donner une émotion tragique, dramatique au public.
Oui.
C'est pas l'humour, c'est l'inverse. C'est tu envoies pour avoir un retour.
Oui,
en dramatique,
vrai.
T'attends pas de retour oui. des gens. Tu veux justement ne pas en avoir. D'ailleurs, un de mes metteurs en scène, il me dit tu fais un métier génial, toi. Parce que lui, il faisait du dramatique de temps en temps. Il dit toi, t'es génial. Parce que justement, quand toi, tu joues, les gens t'envoient ton punch, t'envoient ta joke, pam, ils rigolent. Tu sais de suite. Et s'ils rigolent pas, tu sais que tu t'es planté, tu vois. Il dit moi, je sais pas avec mon public. Je sais pas si le public est concentré, attentif ou endormi. Il dit ça, je le sais qu'à la fin, au moment des applaudissements.
Ah ouais.
Il dit non, parce que comme je suis centré sur moi,
oui,
et je peux pas,
machin,
etc. Il dit, je le sais à la fin, si les gens applaudissent, ou tu sais, si c'est ouais, bravo, ou si c'est des.
Ça, c'est quelque part, en bonne amoureuse du théâtre, mais en étant dans la salle, je trouve ça. Je trouve que ça fait mal pour l'artiste, le comédien qui a tout donné sur scène. Après, t'aimes pas, t'es libre de pas aimer. Mais applaudis la prestation parce qu'il a quand même fait une prestation devant toi. Donc rien que ça, je sais pas moi, applaudis ce qu'il a fait, même si t'as pas aimé.
Tout à fait. Tu peux pas dire, moi je suis contre les gens qui disent « Oh, c'est de la merde ».
Non.
D'abord, avant de le dire, donne-moi pourquoi. Est-ce que le comédien connaissait ses textes? Oui. Est-ce qu'il articulait correctement? Oui. Est-ce qu'il y avait un jeu de lumière? Est-ce qu'il y avait de la bonne musique? Est-ce qu'il y avait une mise en scène? Oui. Ok. Donc, c'est pas de la merde. C'est juste que c'était pas ton truc. Tu dis,
voilà.
Ah, moi, ça ne m'a pas plu.
Muni de tout ça, mais respect
voilà.
pour celui qui monte
Parce
sur scène.
Parce que sinon, vas-y,
même.
Apprends-toi, fais tout, et puis vas-y, on
voilà.
en parlera.
Fais-le à sa place. Alors, nous partons en musique.
Mais oui.
Avec
la critique est facile, l'art est difficile.
C'est vrai. Joli. Stromae qui nous chante tous les mêmes.
Un belge.
Et tous les mêmes, macho, mais tu prends de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Les mêmes.
Stromae, qu'on aura grand plaisir à réentendre lorsqu'il reviendra sur le devant de la scène avec un nouvel album. Le rêve de ma vie, là, je l'annonce, hein, si jamais quelqu'un pouvait faire en sorte que je lui fasse une entrevue, je suis comme une dingue, ce serait le plus beau cadeau de ma vie. Voilà,
nouveau,
ça c'est un petit mot. Maintenant,
siècle.
Maintenant, on reste avec, restez là, Carmen Jolin arrive, on va parler du théâtre Prospero dans la prochaine demi-heure.
Voilà. C'est pas la même
soyez
vibe
avec nous.
Que la comédie de Montréal. Mais c'est
non,
bien quand même.
Mais faut en parler parce que c'est sûr. Vraiment bien. Allez, à tout de suite.
Les Faramineux, avec votre animatrice Arlette Farah.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Ah, mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. And if you say it's just one word, I stay with you. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, liés à trois fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, que tu respires, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Ooh. And if you say it's just one night, I'll stay with you.
Alors, on vient d'entendre Christine and the Queens qui nous chante Saint-Claude. Et la voici, la voilà, comme annoncé. Eh bien, Carmen Jolin est avec nous. Bonjour, Carmen.
Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver.
Oui, moi aussi, mais en même temps, Carmen, enfin, oui. J'ai tellement l'image du Prospero avec Carmen Jolin que je... comment je vais faire quand vous serez plus là?
Tu mettrais une photo.
Il va y avoir une autre belle figure qui va arriver, qui va se déployer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve que c'est un bon moment pour faire une passation. Je trouve que le Prospero est une petite belle place. On a une saison formidable en ce moment qui... Je trouve qu'elle représente un petit peu comme la synthèse, un peu le miroir de mes élans dans les dernières années. Puis, je suis très contente de voir ça. Puis, je suis contente de la façon dont les choses se passent au théâtre. Je pense qu'il va y avoir une belle suite à ce théâtre qui est vraiment dédié comme à la création et à l'aventure artistique.
Alors, étant donné que je vous vois tellement, je vous ai déjà reçu, je vous ai vu chaque fois être super passionné par ce que vous faites. Oui. Et c'est vrai que ça ne me regarde pas, mais je vais dire quand même, Carmen sans le théâtre, ça va donner quoi?
Oui.
C'est ça.
Eh bien non, je pense qu'il faut que les générations qui sont les plus jeunes que nous, parce qu'on est quand même là, bout de temps. On a créé ce théâtre, on l'a développé, on l'a animé pendant tellement d'années, jusqu'à maintenant. Et puis, les prochaines années, surtout avec des grands projets de quatriennaux qui doivent être composés, et il faut qu'il y ait des énergies nouvelles, il faut que les jeunes prennent en main aussi les aventures nouvelles. Le théâtre d'aujourd'hui, c'est ça. Le théâtre de demain, il va être ça et autrement. Donc, il faut offrir ça aussi. Et il ne faut pas partir à un moment où on n'a plus d'énergie non plus et on n'a plus...
Non, il faut partir en haut de la vague.
Voilà, on est en haut de la vague. vous l'avez bien dit. Puis là, aujourd'hui, hier, c'était un super beau lancement. Oui. Tout le monde était là, les artistes étaient là. C'était une belle fête et je surfe, pour continuer votre expression, sur une vague. Voilà. Je suis très bien, Arlette.
Bon, alors c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui se passe en septembre? On commence par septembre ou...
Oui, donc septembre, on a une saison de septembre à décembre qui est un peu légère, mais on prévoyait aussi qu'il y avait cette COVID qui était là. Puis
oui.
Si on se mettait en danger, si on mettait à recommencer à mettre des spectacles qu'on a dû créer l'année passée au théâtre, puis qu'on n'a pas pu présenter, puis alors on était dans une sorte de prudence. Alors, au mois de septembre, on commence par une courte édition de Territoire de parole. Qu'on va présenter en collaboration, en partenariat avec le Festival international de littérature. Et ça démontre aussi comment Territoire de parole, qui est un laboratoire d'essai, en dehors du système de production, là, ça permet de tester des choses, puis il y a des choses qui vont pas s'allonger là-dedans, puis il y en a d'autres qui trouvent leur chemin plus tard. Puis c'est le cas pour 3 projets qui ont été faits l'année passée en territoire de parole. Donc, les 2 qui vont être présentés à l'automne, c'est la fin de L'Homme rouge, dirigé par Catherine Deléant, c'est sa première expérience comme directrice d'acteur. Elle est venue me voir avec ce texte qui est absolument magnifique. Donc, elle va faire ça. Puis, il y a aussi Soleil Launière, qui est que j'avais invitée j'avais dit, maintenant, il faut que tu fasses un projet que tu as envie de faire. Puis, elle m'a dit, ben voilà, j'ai écrit un premier texte 2 mois pendant une résidence à l'École nationale de théâtre. J'aimerais travailler là-dessus. Donc, elle a fait ça. Puis maintenant, ce spectacle, cette parole-là a été très bien reçue. Puis elle fait un peu état de... Je ne sais pas si j'ai le temps de m'allonger sur le sujet. Vous me dites, hein,
oui,
Arlette?
Oui, oui, ben allez-y, oui. On en parle.
Alors, elle raconte un peu... C'est une Innu, mais elle est entre... Comme elle ressemble beaucoup comme à une personne de la communauté blanche, on peut dire.
Oui.
Elle est comme entre deux visions, deux appartenances, et elle est comme, c'est une drôle de situation, puis elle a eu envie de partager cette drôle façon de devoir s'identifier quand on est un peu comme en mélange de ces deux réalités. Donc, c'est une parole qu'on n'a pas entendue sur cette réalité-là, puis elle va faire ça. Et plus tard, en avril, on va présenter un autre laboratoire qui a été mené par Mélanie Demers, qui est une chorégraphe, mais que le théâtre attire aussi. Et elle a réuni des membres uniquement de la communauté noire, des membres artistiques. Oui. Et ils ont fait un travail magnifique, Cabaret Noir, c'est vraiment à voir. Et on a trouvé qu'avec Francine Bernier de l'Agora de la danse, qu'on pourrait présenter ça ensemble, produire ça ensemble, et ça va être présenté à l'Agora de la danse, à l'édifice Wilder. Ça, c'est pour l'automne. Et tout de suite après, au mois de novembre,
oui, au mois de
on
novembre.
Fait la reprise de Platonov, Amour, oui. Reine et Angle mort, qui a été vraiment une aventure artistique pour les artistes, mais pour les publics. Et
oui.
C'était quelque chose qu'il fallait reprendre.
Et là, il y a toute une histoire sur cette reprise.
En fait, il y a quelque chose de nouveau, dans le sens que maintenant, Michel Tremblay et Anguilla ont convenu que ça serait bien d'en faire une adaptation québécoise. Donc, le texte va être remis dans la bouche par les acteurs. Donc, ça va sonner autrement. C'est oui. bien, ça va... j'ai hâte de l'entendre de cette manière-là. Mais toute la poussée forte du jeu d'acteurs va se retrouver parce que l'équipe est restée intègre, complètement réunie. Il n'y a personne qui doit être remplacé. Et c'était une des clés du succès. Angela Conrad qui a créé avec son équipe, oui. avec des phases d'improvisation, tout ça. Donc tout le monde se révèle dans un jeu personnel vraiment très, très beau, puissant. Donc, c'était à refaire. Il ne fallait pas abandonner ce spectacle.
Et c'est la même distribution pour ce spectacle?
Oui, complètement la même. Et ça, c'est heureux, je vais vous dire. Hein?
Ben oui.
Parce que ça ne se recrée pas facilement un esprit d'équipe tel qui a été vécu là, à ce moment-là. Donc ça, c'est beau.
Alors, il s'était habitué à faire le texte d'une certaine façon, puis là, ils vont le...
Oui. Ils vont... oui, voilà. Mais ça permet de rester frais.
C'est quand même pas mal comme projet quand on a bien pris le pli de quelque chose. Et puis à ce moment-là, c'est de la créativité aussi. Il faut oui, déplier oui, pour ça. Faire autrement.
Il faut être vigilant parce qu'on ne peut pas retomber dans le même piste. Donc, c'est exigeant au niveau de la présence. Il faut être là. Faut être bien là sur scène.
Ben oui, ça va être un beau moment. Et après, oui. En janvier, alors, il va y avoir une...
Oui.
Solstice d'hiver, c'est ça?
Oui, solstice d'hiver. C'est l'aboutissement d'une collaboration avec Joël Bedos, qui était directeur du Théâtre français de Toronto jusqu'à tout récemment. Et on avait voulu, il y a quelques années, établir ce qu'on appelait corridor Toronto-Montréal. C'est de favoriser des échanges entre les deux métropoles culturelles qui ont dans lesquelles les artistes ou les œuvres ne circulent pas souvent. Donc, j'ai accueilli un de ses spectacles, il a accueilli un des nôtres, puis on a fait des échanges avec des metteurs en scène qui sont venus faire des stages et tout ça. On a créé des laboratoires oui. de part et d'autre. Puis là, on aboutit à une coproduction. Donc là, on est encore plus engagés. Et des équipes d'artistes de Toronto sont réunies avec des équipes d'artistes de Montréal, du Québec. Et c'est un texte assez intéressant sur l'arrivée nouvelle ou la remontée nouvelle du fascisme, ou en tout cas un néo-fascisme, c'est-à-dire une droite qui était en train de remonter. Et c'est un personnage qui arrive une nuit de Noël dans une petite famille bien cultivée, un peu bien pensante, mais un petit peu sur le déclin. Le couple est un peu dans des passes difficiles. Mmh. La mère revient, des complicités, mais des problèmes avec la mère aussi. Et puis, on voit que cette petite société bien dodu, bien arrangé, cultivé, tout ça. Elle ne voit pas venir ce personnage qui représente, dans le fond, une montée de la droite. Et puis, en même temps, c'est un texte assez comique.
D'accord.
Un sujet sérieux. Mais
oui, le sujet, je ne le vois pas.
Très humoristique. Il y a quelque chose d'absurde dans tout ça. Et chez Mel Fanning, donc, on ne fait pas une tragédie, loin de là.
D'accord. Bon, c'est déjà bien parce que le sujet porte plutôt à quelque chose de sérieux qui arrive,
oui,
qui fait presque peur, je dirais. Donc.
Oui, mais non, il ne faut pas. C'est plutôt, je pense que si vous avez cette perception, on va faire des communications dans lesquelles on va essayer de montrer que c'est un texte caustique et humoristique.
Bon, tant mieux à faire comme ça.
Oui,
après, à la mi-février, alors, quand nous serons suffisamment torturés.
Ça, c'est bien, hein? Ça, c'est un beau titre.
Tout est dans le titre.
Tout est dans le titre, t'as raison.
Est-ce que les couples, est-ce que la société, est-ce que les rapports de domination, les rapports de pouvoir, c'est un peu de ça que a voulu parler Martin Krimp, qui a adapté un roman du 18e siècle, qui était un roman à succès. Et puis, il a décliné ce roman, et puis il fait voir beaucoup les jeux dangereux de domination homme-femme. Puis en plus, dans une époque d'aujourd'hui où les relations hommes-femmes sont très scrutées, regardées et tout ça, ça s'inscrit là-dedans. C'est un texte très puissant. Moi, quand Christian me l'a fait lire, j'avais jamais entendu un auteur parler de cette manière-là, de la relation de pouvoir que les hommes et les femmes exercent entre eux. Et c'est au centre de ça. Donc, c'est évidemment avec deux interprètes extraordinaires, Céline Bonnier et Manuel Schwartz.
Ah oui, quel talent!
C'est beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Ben, Christian et puis l'auteur aussi, hein, qui sont bien chargés de beaucoup d'expériences antérieures. Krimp, Christian a beaucoup travaillé des textes de Krimp. Puis c'est un projet à voir. C'est un projet à regarder.
En même temps, Carmen, j'ai dans le studio un homme, j'en ai un autre derrière la technique et je voudrais leur demander à eux deux qu'est-ce qu'ils en pensent.
OK, allez. Moi, je trouve le titre tellement beau quand on se sera suffisamment torturé. Et parce que finalement, c'est une guerre entre les deux. Hein. C'est pas juste un homme dominant. Il y a une femme qui répond et qui répond assez fort aussi. Et finalement, ils se marient. Ils s'aperçoivent qu'ils s'aiment à travers ce jeu-là. C'est des personnes qui s'aiment. Bon, alors, là, c'est à chacun de se faire son interprétation quand on verra comment ils se marient, puis avec sur quel ton et tout ça. Mais voilà, c'est une belle pièce parce que c'est un point de vue que j'ai pas entendu sur la scène.
Alors, un petit mot, garçon. On commence par le plus jeune. Allez.
OK, d'accord. Allez-y.
Ben, moi, honnêtement, ça me donne envie d'aller au théâtre.
Bon, alors.
Ça m'interpelle.
Oui. D'accord. Alors c'est
intriguant d'avoir le mot torture qui est appliqué, mais qui est au sens figuré, et donc de voir comment est-ce que ça peut être appliqué sur deux êtres qui en plus vont développer un amour. C'est antinomique, quoi. Torture, amour, ça va pas forcément ensemble.
Et pourtant.
Hein.
Oui, qui aime bien châtie bien, mais quand même.
Oui, mais la torture, hein, c'est un terme aussi dans lequel il y a une sorte d'humour. Hein, quand on se soit assez fait mal, c'est comme un jeu de se faire mal pour s'aimer, s'éprouver. Se faire mal pour s'éprouver soi-même, hein, pour éprouver l'autre, pour tester
amour. Ses limites.
Et puis on est au théâtre, hein, donc il faut qu'il y ait quand même des conflits. Le théâtre se crée sur des conflits, sur des échanges solides. Donc on a du théâtre ici. Là.
Oui. Alors parlons un petit peu du mois de mars.
Alors au mois de mars, on a.
Sophie Desmarais.
Sophie Desmarais.
Oh, avec un solo de Fabrice Melchior.
Melchior, voilà. C'est l'histoire d'une jeune femme dans laquelle il y a des aspects obscurs de qui ont été vraiment ses parents biologiques. Et elle part donc, en résumé, parce que c'est un très court résumé, elle part dans aux États-Unis pour aller rechercher des amis de ses parents et tout ça, et elle découvre finalement son père naturel. Mais c'est une longue quête et c'est un personnage féminin qui se questionne sur ce qu'elle est, elle a l'impression qu'elle avance pas dans la vie, elle réussit pas, elle veut être une actrice, mais ça marche pas tant que ça. Puis c'est comme s'il y avait un dilemme qui avait pas été réglé en elle et il est à la recherche de régler un peu ça. Il s'est enveloppé dans les chansons de Leonard Cohen.
Oui, j'ai vu ça.
Sa mère, c'est supposé être Suzanne. La Suzanne de l'époque de Cohen, donc tu es rencontrée à Montréal. Et
ça,
puis voilà, donc c'est toute l'époque de la Beat Generation, ses parents là. C'est... Et donc puis ce texte a écrit pour une Québécoise, puisque Florent, Melchior est français, mais là il a écrit The $1 Story avec un titre anglophone, bien sûr. Puis il fallait une actrice québécoise pour jouer ça. Donc on l'a d'abord testé, ce texte, en territoire de parole il y a 2 ans. Fabrice Melchior était à Montréal, Roland Osay. On s'est dit, mon Dieu, mais c'est Sophie Desmarais qui doit jouer ça. puis on a fait le laboratoire, puis après on a dit ben il faut le monter, c'est trop beau. Donc puis c'est un gros travail pour Sophie Némaret, c'est vertigineux ce qu'elle a à faire, oui. Puis elle est excellente et elle est magnifique.
Oui. Du talent, oui. Ça, c'est sûr. Oui. Alors la saison se clôture avec une reprise.
4.48 Psychose. C'est Florence Hillot qui fait une revue de ce grand texte. Et Florent, ben, c'est un ami du théâtre hein, avec qui on a travaillé en coproduction, en production avec lui pour Les Enivrés, Illusion de Grypaïev. Donc, c'est un allié artistique. Et oui. Ce projet-là, il l'avait créé à Montréal, à La Chapelle, et il y avait vraiment le désir de le reprendre, de la faire jouer juste quelques fois. Donc là, c'était l'occasion, et pour Sophie aussi, de reprendre ce rôle. Voilà, donc ça vient clôturer. C'est deux solos, hein. Sophie était hier justement au lancement. Et toutes les deux témoignaient un peu de qu'est-ce que c'est faire un solo, tu sais, comme, oui. Qu'est-ce que ça implique, quel défi ça représente, comment c'est, si on est responsable et seul devant les publics. Et c'était très beau de les voir.
Ben oui, puisque interprété par Sophie Cadieux, donc oui. Effectivement. Oui. Ça va être une belle finale.
Un spectacle très bien accueilli. On a dit en France que elle irradiait sur la scène. Donc voilà, il faut que ces spectacles qui arrivent un peu comme à des aboutissements intéressants, il faut qu'ils aient la chance d'être repris pour être vus par d'autres publics, là, des publics plus larges. Fait que c'est notre saison, mais après, évidemment, il y a la salle intime qui va ouvrir.
Mais elle va ouvrir ou pas? Oui?
Ben pour le moment, on ne vend pas les billets, mais la programmation a été lancée parce qu'on attend un peu la possibilité de pouvoir ouvrir la salle avec une jauge complète parce que c'est une petite salle de 48-49 places. Oui. Donc, quand on a des jauges à 1,5 mètres, c'est pas possible. Oui. Là, on est rendu à un banc sur deux, donc c'est mieux. Hein?
Oui.
Mais c'est pas encore beaucoup pour la petite salle.
Oui, c'est ça.
Donc, puis on sait pas comment va se développer tout ce qui s'en vient. Hein? On a encore la COVID dans les pattes. Hein?
Tous les jours, les choses changent. Alors maintenant, oui. On attend au jour le jour.
À la fin.
Oui.
Donc, oui, il y a 4 spectacles encore. C'est toutes des créations de jeunes et de moins jeunes auteurs, autrices québécoises. C'est vraiment des très beaux projets. Pas si je peux pas.
J'en doute pas. Qu'est-ce qu'il nous reste?
Il faut suivre.
Il nous reste 2 minutes.
Ben alors, je voulais vous dire une chose. D'abord, merci de m'avoir accueilli souvent à votre émission.
Ah ben, c'est toujours un plaisir.
D'accord. Et je voulais dire une chose qui s'adresse aux spectateurs, c'est que je sais qu'on a encore des obstacles pour se rencontrer. On a des jauges, on a encore des masques pour rentrer, il faut se laver les mains. Puis en plus, il y a le passeport. Et on ne connaît pas encore comment on va appliquer tout ça parce que toutes les règles, tous les détails ne sont pas connus.
Non.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas que ça freine l'intuition, le goût des spectateurs de venir au théâtre parce que cette année, il ne faut pas rater les rendez-vous, il faut se rencontrer. On a passé une année à remettre, à défiler, à enlever, à recréer. Là, on est prêt et on est dans nos salles et on est un peu comme prisonniers de nos salles. Nous, on ne peut pas sortir avec notre spectacle. On est là et on les attend. Et on voudrait faire un appel, en dire venez à notre rencontre. Il faut qu'on se rencontre. Il faut que cette année, on ne se rate pas. C'était un peu le message parce que je sais qu'il y a peut-être encore dire « Oh mon Dieu, ça va être compliqué aller au théâtre. »
Non, mais c'est bien d'en faire le message parce que les gens se posent des questions.
Et d'arrêter de dire qu'on n'est pas essentiel.
Oui.
La culture, l'art est essentiel parce qu'elle est essentielle pour la tête des gens quand on voit tous les problèmes de santé mentale et de se retrouver.
Oui, c'est ça.
Et ça vaut la peine de payer, de traverser ces difficultés.
Oui.
Parce qu'avoir une autre année à ne pas être là, à ne pas se voir, c'est terrible. On n'a pas envie d'envisager ça hier au lancement de la saison. Tout le monde était tellement chaud.
Mais oui, je me doute.
Chaud, donc, pompé, on est prêt, on a des super projets. Et je voulais dire, il ne faut pas se rater, il faut se rencontrer, puis on va faire les efforts des deux côtés. Voilà.
Eh bien voilà, c'est sur ces mots qu'on termine l'entrevue. Merci beaucoup, Carmen. C'est toujours un plaisir.
Moi aussi, c'est un plaisir de vous parler tout le temps.
Bonne continuation.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Mais l'inconnu, tu fais la tempête.
Ça y est, on a perdu Arlette là, attention.
Alors on vient d'écouter Pierre-Gabriel Couture qui chantait Tu me hantes. Alors on va dire merci à Carmen Jolin d'avoir été avec nous, toujours aussi passionnée comme d'habitude. Et puis merci à toi Jamin Chtouki, qui pour le théâtre avait un petit mot aussi à dire.
C'était pour rebondir sur ce qu'avait dit Carmen à la fin de ce qu'elle annonçait, tout ça, qui est vrai, de dire aux gens, venez, n'ayez pas peur de quoi que ce soit, il n'y a pas eu un cas de Covid dans des salles de spectacle depuis le début de la pandémie, et puis arrêtez, là je vais m'adresser aux politiques, arrêtez de dire qu'on n'est pas essentiel. Je reviendrai refaire mon texte que j'avais fait à un moment donné, où si on est essentiel, et comme le disait Jean-Sébastien,
à quel point le confinement aurait été plus dur si on n'avait pas eu de musique pour nous accompagner, de livres, de films, de télé, de toutes les arts qui font partie de notre vie. C'est pas essentiel, mais passer une journée sans art, là, on s'en rend compte que on en a besoin.
L'art est essentiel. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on se quitte.
Oh, moi, j'ai recodé sur. Par contre, les politiques ne sont pas essentielles.
Allez, au revoir à tout le monde. Et puis, on se dit à demain pour la fin de la semaine.